sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé Monsieur Jérôme Cahuzac, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Commerce extérieur, chargé du budget.
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf. Simon de Creuse.
Et vous.
Jérôme Cahuzac a 59 ans, désigné ministre du budget. C'est un chirurgien réputé, député maire de Villeneuve-sur-Lot. Il était le patron de la commission des finances à l'Assemblée.
Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation, car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Et c'est donc devant la justice que je m'expliquerai devant ces contradicteurs, en attendant d'eux des éléments probants qui, à ce jour, font manifestement défaut. Merci, monsieur le député, de m'avoir permis de le dire devant la représentation nationale.
Moi, mes questions sont très simples.
Non, mais...
Pourquoi vous n'avez pas déclaré ce compte à l'UBS ?
Non, moi, ma remarque est... Vous affirmez que l'administration a été alertée. Je vous fais simplement remarquer que si elle a été alertée, je ne comprends pas pourquoi l'administration n'en fait rien.
Mais ça, c'est en second rideau. La première question, c'est pourquoi vous n'avez pas déclaré ce compte à l'UBS ?
Parce que je n'en ai pas.
RFI.
Bonjour à tous, donc je suis Fabrice Arfi.
C'était il y a quelques mois, lors d'une formation sur le journalisme d'enquête organisée par CFI et Mediapart à Tunis. Fabrice Arfi prenait la parole devant un parterre de collègues originaires du Maghreb. Dans quelques jours, nous diffuserons un reportage sur cette formation. Mais en ce samedi 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse dans le monde, nous avons souhaité vous proposer une sorte de tiré à part radiophonique. Dans l'heure qui suit, vous allez entendre une leçon de journalisme signée Fabrice Arfi. Ce jeune confrère a rejoint Mediapart en 2008 à la création du site. Il avait alors 26 ans. Depuis, il s'est illustré en révélant les plus grands scandales de la vie politique et financière française. L'affaire Woerth-Bettencourt, l'affaire Karachi, l'affaire libyenne de Sarkozy et plus récemment l'affaire Cahuzac, du nom de ce ministre du budget socialiste qui possédait un compte non déclaré en Suisse. L'affaire Cahuzac en bloc et en détail, c'est le nom d'un livre publié par Arfi en 2013 et cela pourrait aussi être le titre de cette leçon de journalisme. Émission sans question cette semaine, à écouter avec attention.
L'affaire Cahuzac, en réalité, est née dans l'esprit, dans mon esprit en l'occurrence, avec l'affaire Bettencourt. On est en juin 2010, nous sortons à Mediapart ce qui deviendra l'affaire Bettencourt. La présidence de la République est alors entre les mains de Monsieur Sarkozy. Le ministre du budget de l'époque s'appelle Éric Woerth. Ils sont d'un parti qui est le parti majoritaire de droite qui s'appelle l'UMP. Et il se trouve qu'à cette période, il y avait un président de la commission des finances de l'Assemblée nationale en France qui était socialiste, que M. Sarkozy avait fait passer comme un grand geste démocratique de mettre un socialiste à ce poste-là, qui est un poste très puissant en France, on le sait peu. C'est un poste, par exemple, pour vous montrer l'étendue de la puissance de ce poste, qui permet au président de la Commission des Finances d'avoir accès aux dossiers fiscaux personnels de tous les Français. Voilà. Avec des pouvoirs d'enquête, des possibilités de saisir évidemment la justice, les autorités de contrôle prudentiel. Voilà. Et cet homme, c'est Jérôme Cahuzac. Et par pur opportunisme journalistique, à cette période, je dis à Fabrice Lam, avec qui je travaillais à l'époque, je dis, voilà, on est dans une affaire Bettencourt où la question fiscale est considérable, où est mise en cause lourdement un ministre du budget UMP qui s'appelle Éric Woerth. Peut-être que par la fonction qui est la sienne et le poste politique qu'il occupe en tant que socialiste, Jérôme Cahuzac pourrait nous aider à tirer des nouveaux fils. Et donc, je me rappelle très bien avoir échangé avec Jérôme Cahuzac à cette époque, au téléphone, que j'avais trouvé très en arrière de la main sur l'affaire Bettencourt et sur Éric Woerth. Comme ça peut arriver parfois, donc voilà, j'avais complètement laissé passer ça. Et le 20 juin 2010, au micro d'une radio périphérique, c'était un dimanche, Jérôme Cahuzac dit, Il n'y a pas d'affaire Bettencourt, il n'y a pas d'affaire Woerth. Woerth est un honnête homme.
Alors, autre affaire, Jérôme Cahuzac, c'est celle mettant en cause Liliane Bettencourt et de manière indirecte Éric Woerth et son épouse qui gèrent depuis 3 ans certains actifs.
Je ne crois pas qu'il y ait d'affaire Bettencourt. Il faut quand même faire attention.
Affaire Bettencourt ou affaire Woerth?
Il n'y a ni affaire Bettencourt ni affaire Woerth. Pour l'instant, en tout cas, il faut quand même faire attention aux mots qui ne sont pas anodins. Éric Woerth est, je crois, un honnête homme. Avoir été ministre du budget et trésorier de l'UMP était évidemment une demande de Nicolas Sarkozy, mais une demande déraisonnable et qui met Éric Woerth dans une situation, je le répète, intenable.
Ah, c'était extrêmement surprenant comme déclaration, puisqu'elle allait à rebrousse-poil de tout ce que disait son parti politique, et pas seulement son parti politique, de ce que nous avions rendu public.
Bon. Chose de surprenant
et donc ça avait fait comme une petite alerte, comme ça. On est à l'été 2010, et puis j'oublie. Voilà, le temps passe, Mediapart se consacre à plein d'autres enquêtes, et voilà qu'en mai 2012, François Hollande devient président de la République et nomme un homme qui s'est montré très efficace pendant la campagne comme ministre du budget, qui est Jérôme Cahuzac. Et quelle est la première chose que fait Jérôme Cahuzac quand il arrive au ministère du budget, alors que c'est la crise, alors qu'il y a la dette, le chômage, problèmes financiers? La première chose que fait Cahuzac, c'est qu'il demande à un ami à lui, qu'il avait connu dans le sud-ouest de la France, de réaliser une expertise sur une autre affaire judiciaire qui met en cause Éric Woerth, qui est une affaire dite de l'hippodrome de Compiègne en France, et comment Éric Woerth, ministre du budget, a bradé des biens de l'État pour des sociétés amies, alors que l'État était contre cette vente, et donc demande un rapport à cet expert qui n'y connaît rien en hippodrome, qui n'y connaît rien en immobilier, qui n'y connaît rien en domaine, qui n'y connaît rien en forêt, qui sont les 4 thèmes de cette enquête. Il n'y connaît rien, mais il travaille beaucoup pour M. Cahuzac, puisque M. Cahuzac l'avait déjà fait travailler dans sa municipalité, où il avait fait une étude sur l'huile de colza. Et donc ce monsieur rend un rapport qui fait 10 pages, dont 2 sont réellement consacrées à la vente et à Éric Woerth, et blanchit totalement Éric Woerth dans cette histoire, alors que la justice enquête déjà sur ce dossier, et que les experts de la justice, en l'occurrence d'une cour qui s'appelle la Cour de justice de la République, avaient rendu un rapport que Mediapart avait rendu public quelques semaines avant, qui était un rapport de 155 pages, autrement plus conséquent puisqu'ils avaient accès à toutes les pièces du dossier, qui était accablant pour Éric Woerth, alors que l'expert ami nommé par Jérôme Cahuzac avait fait un peu une expertise au doigt mouillé. Et donc là, on est en juillet 2012, je me souviens, l'affaire Bettencourt, je me rappelle de Jérôme Cahuzac au téléphone, de sa déclaration « il n'y a pas d'affaire Woerth », etc. Et je me suis dit mais bon Dieu, est-ce qu'il y a un secret entre ces deux hommes pour que Jérôme Cahuzac, socialiste, déploie autant d'énergie à couvrir, en toutes circonstances, à chaque fois qu'il y a une affaire judiciaire, celui qui est censé être son adversaire politique? Je vous raconte ça parce que c'est vraiment le déclencheur de l'enquête Cahuzac, pour moi. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que j'assume très bien l'idée que quand on est journaliste, qu'on veut faire de l'enquête, on peut avoir l'esprit mal tourné. Et parfois, il faut avoir l'esprit mal tourné. C'est-à-dire se poser les questions qui dérangent. C'est-à-dire imaginer qu'il peut y avoir quelque chose d'inavouable entre ces deux hommes. Ça ne veut pas forcément dire que ça existe. Mais si on ne se pose pas la question, on n'aura jamais la réponse.
C'est vrai que les rapports d'expertise juridique sont des rapports qui me donnent raison. Donc c'est évidemment toujours... C'est d'abord un soulagement. C'est la confirmation de ce que je dis depuis 2 ans. Cette vente était légale, évidemment, et dans l'intérêt de l'État.
Un ministre qui décide est un ministre qui s'expose. Aujourd'hui, au pire des commentaires, c'est ce qui s'est passé dans ce dossier qui était politiquement instrumentalisé pour des raisons internes, à mon avis, à certaines administrations.
Et c'est donc à ce moment-là, en juillet 2012, que je décide... Et on en discute comme ça au journal, mais comme une discussion classique, d'enquêter sur Jérôme Cahuzac. Mais sans rien savoir de ce que je vais découvrir. Donc je passe, et c'est là, la phrase est beaucoup revenue, ça demande du temps et de l'argent. Et donc j'ai perdu du temps en enquêtant sur Jérôme Cahuzac, sur sa personnalité politique locale, sur son parcours électoral, sur sa vie professionnelle passée. Il était chirurgien d'implant capillaire, puis on commençait à apprendre des choses. Il a fait beaucoup de lobbying pour l'industrie pharmaceutique. Il a travaillé dans un cabinet ministériel qui était un cabinet du ministère de la Santé, où il s'occupait de toutes les mises sur le marché des médicaments et des scanners. Donc c'est un peu comme, on peut appeler ça une sorte de super enquête de voisinage sur un homme. Donc voilà, ça implique de se déplacer, de rencontrer beaucoup de gens, y compris dans les circonscriptions, c'était dans le sud-ouest de la France où il était élu. C'est un stade d'enquête où je reste extrêmement discret quand même. Et c'est aussi un stade d'enquête documentaire. C'est-à-dire, après on en parlera concrètement, mais d'accumulation d'éléments qu'on peut avoir en source ouverte. Par exemple, faire l'historique de toutes ces interventions à l'Assemblée nationale. Ces dépôts d'amendements, ces prises de parole en commission. Alors c'est un travail de bénédictin, hein. Ça prend un temps fou. Mais je commence grâce à ça à découvrir que, alors qu'il est député, contrairement à son image de Torquemada des laboratoires pharmaceutiques, en fait, il essaye de faire passer des amendements qui sont très profitables à certains labos pharmaceutiques. Et puis, autre source ouverte qui existe dans beaucoup de pays, le tribunal de commerce ou le registre du commerce et des sociétés. Et là, en moyennant un tout petit peu d'argent, parce qu'il faut payer ces documents, mais c'est normal, hein, c'est pas de la corruption, on découvre les statuts de certaines sociétés qui sont des sociétés de lobbying pour les industries pharmaceutiques de Jérôme Cahuzac, notamment à l'époque où il est député. Donc là, on commence à se dire, commence à y avoir quelque chose là-dessus. Et en discutant avec les gens, j'entends parler d'une fortune considérable accumulée par Monsieur Cahuzac, un train de vie important, très beaux appartements, donc on a les adresses, on va voir, etc. Le problème n'est pas d'être riche, hein. On peut être riche pour ce qu'il veut, mais c'était une donnée. Et grâce aux sources que nous avions pu accumuler à Mediapart au fil du temps, j'ai pu avoir accès, évidemment je ne vous dirai pas comment, mais grâce à des sources fiscales, je ne vous dirai pas par qui, mais j'ai pu avoir accès à des déclarations d'impôts de Jérôme Cahuzac. Trois déclarations d'impôts de lui et son épouse, c'était des déclarations communes. Donc je voyais ce qu'il déclarait à l'administration fiscale comme revenu. Et ça ne correspondait pas à ce qu'on me racontait concernant ses émoluments en tant que lobbyiste pour l'industrie pharmaceutique et en tant que chirurgien d'implants capillaires, qui est très lucratif, hein, parce qu'en France, les implants capillaires, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, et Jérôme Cahuzac était l'un des plus chers de la place de Paris. Je dis ça parce que non remboursé par la sécurité sociale, ça permet de faire beaucoup de blagues, quoi, beaucoup d'argent au noir non déclaré. Donc là, encore une fois, ça n'est encore que de l'intuition à chaque fois. Vous savez, l'intuition plus l'intuition plus l'intuition, ça commence à faire des faits. Voilà. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, il manque de l'argent quelque part. Et après plusieurs semaines, on est au mois de septembre 2012, fin septembre dans mon souvenir, après plusieurs semaines infructueuses, c'est pour ça que l'une des qualités dans ce travail est d'être pugnace et de ne jamais, 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 jamais lâcher. Si on vous refuse un rendez-vous une fois, vous essayez jusqu'à la centième fois s'il le faut pour avoir le rendez-vous. Souvent, ça marche. J'arrive à avoir un rendez-vous avec quelqu'un qui, par fonction, a eu à connaître d'assez près une partie de ce que Jérôme Cahuzac a appelé lui-même sa part d'ombre. Et j'avais rendez-vous avec cette personne, je l'ai raconté dans un bouquin, donc je peux le dire, au Café de Flore, à Paris, la première fois que je mettais les pieds là-bas, où on boit un chocolat chaud absolument délicieux, et je décide d'aller au culot avec cette personne. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'il manque des sous dans les déclarations de M. Cahuzac, et cette personne, je lui dis, comme si c'était un acquis de mon enquête, que je savais qu'il y avait un compte à l'étranger. Je vous assure que ça s'est passé comme ça, hein. La personne me répond « Vous ne trouverez jamais ». Alors là, ça a été le point de bascule de l'enquête. Parce que « vous ne trouvez jamais », ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord qu'on me met au défi, et moi j'aime ça, et donc je vais tout faire pour trouver. Et surtout, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc à partir de ce moment-là, c'est là où l'angle de l'enquête est apparu naturellement, c'est trouver le ou les comptes non déclarés du ministre du budget. Puisque là se dessine alors un tableau incroyable, c'est-à-dire que l'homme qui, au sein du gouvernement, est censé lutter contre la fraude fiscale et les comptes non déclarés, est lui-même un fraudeur fiscal. C'est le pompier pyromane. Et alors là, grâce à un certain nombre de sources que nous avons depuis des années, on reprend l'enquête depuis le début, on revoit des gens, on refait le film, etc. J'apprends que, d'abord, il y a bien eu un compte, notamment par des sources, on va dire, financières et certaines liées aux services de renseignement. Et puis surtout, j'apprends qu'il existerait un enregistrement dans lequel Jérôme Cahuzac parlerait de son compte en Suisse. Alors j'en entends parler une fois, j'en entends parler une deuxième fois, et puis je rencontre quelqu'un qui a entendu l'enregistrement. Et puis la personne qui l'a eu entre les mains. Et puis une autre qui en a toujours un exemplaire. Et donc il a fallu plusieurs rendez-vous pour finalement avoir une copie de cet enregistrement. L'Armagnac que j'ai bu avec la source n'est pas étranger au fait qu'il ait fini par me lâcher l'enregistrement, je crois. Et en même temps, je découvre, dans le même temps, qu'un agent du fisc avait tenté d'enquêter sur le compte suisse de Jérôme Cahuzac en 2008, qu'il avait fait des rapports là-dessus, notamment un rapport en juin 2008 qu'il avait adressé à, roulement de tambour, trois petits points, Éric Woerth, en lui disant « J'ai deux sources extérieures au service qui me disent que M. Cahuzac a un compte en Suisse. Je n'ai pas les moyens de vérifier. Je vous demande de pouvoir faire une enquête en bonne et due forme sur cette personne. » Et Éric Woerth, la seule réponse, c'est que l'agent du fisc sera renvoyé. Il sera renvoyé. Hein. Aujourd'hui, il a été réintégré grâce à l'affaire, etc. Mais cet homme a vécu un harcèlement administratif absolument extravagant, puisqu'il a été renvoyé de l'administration, quand même. Et donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, quand on a vu juste, on dit que c'est une intuition. Quand on a vu faux, c'est un a priori. Mais là, l'a priori était une intuition. Il y a une histoire commune, secrète, entre guillemets, entre Jérôme Cahuzac et Éric Woerth. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons l'enregistrement, nous arrivons à faire expertiser d'abord que la bande est intègre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été manipulée. Pour ça, on a fait venir en fait la même personne qu'on avait fait venir pour l'affaire Bettencourt. Donc là, il y a des trucs et astuces très simples. Moi, que j'avais découvert dans l'affaire Bettencourt, j'y connais absolument rien. Il se trouve que j'ai une source qui est un ancien de la direction de la surveillance du territoire, l'ancien contre-terrorisme français, la DST, qui s'occupait des écoutes dans les années 80. Et il m'avait dit, tu verras, pour voir si le son n'a pas été monté, il faut que tu exacerbes les aigus, parce que ça va pousser le souffle de la discussion. Et tu verras s'il y a un souffle continu ou si des moments, il y a des petites coupures ou pas, etc. Tout ça pour vous dire que c'est extrêmement artisanal dans l'affaire Bettencourt. On a même été jusqu'à vérifier la météo de certains jours pour voir que quand le gestionnaire de fortune disait « Ah, madame, il fait beau aujourd'hui », bon, bah comme on avait la date de l'enregistrement, est-ce qu'il avait fait beau ce jour-là, à tel endroit, etc. Non, mais, comment dire, il n'y a pas de mauvais recoupement. Je veux dire, dans une enquête, ça se joue sur la couleur des chaussettes, sur le détail. Hein. Et donc, dans l'affaire Cahuzac, ensuite, moi, j'ai, avec cet enregistrement très dur à entendre, j'ai essayé de reconstituer la manière dont cet enregistrement a eu lieu. Bon, et c'est là où j'arrive, grâce à plusieurs sources, à comprendre ce qui s'est passé, qui est invraisemblable. C'est-à-dire que c'est l'histoire qu'on a tous, je crois, connue une fois dans son existence, ce qu'on appelle le pocket call, l'appel de la poche. C'est quand vous rappelez un correspondant avec votre téléphone sans faire exprès. Il se trouve que Jérôme Cahuzac, à la fin de l'année 2000, au moment de cet enregistrement, appelle, il est député Jérôme Cahuzac, appelle le maire de la ville dans laquelle il se présentera plus tard, qui sera son adversaire politique. Le député PS qui est Cahuzac appelle le maire qui est de centre droit, qui est bâtonnier, avocat, et lui dit « Écoute, mon cher Michel, j'ai obtenu que Daniel Vaillant, le ministre de l'Intérieur de l'époque, vienne inaugurer le commissariat de Villeneuve-sur-Lot dans un mois. » Il raccroche. Et son téléphone rappelle la personne en question, alors que Jérôme Cahuzac est en train de discuter avec son gestionnaire de fortune de son compte en Suisse. Et voilà ce qu'enregistre le message.
« J'ai toujours un compte ouvert à l'ULS, mais il n'y a plus rien, évidemment. La seule personne de l'ULS, c'est l'ULS. Ça me fait chier d'avoir un compte ouvert là-bas. Ça me fait chier, non. L'UBS est un appartement, on n'a plus qu'un télé, donc... »
On marque une courte pause dans l'atelier des médias. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.